Salut tout le monde, c'est encore Ilyes et Nassim, et aujourd'hui, on va vous présenter la deuxième partie de notre émission sur le style vestimentaire.
Pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons fait un micro-trottoir et une interview avec un magasin arageois.
Pour la suite de l'émission, nous vous proposons un entretien par téléphone avec Philippe Zmirou. Il dirige l'école de mode, l'ES-Mode de Roubaix.
Pour vous présenter ES-Mode, je vais être obligé de vous faire un petit peu d'histoire parce que c'est passionnant et parce que ça s'inscrit vraiment dans la vie de la mode, en fait. En fait, ES-Mode est né sous le Second Empire à Paris en 1841, exactement. Donc, ça fait déjà 185 ans que l'école existe. Les écoles de mode, ça n'existait nulle part sur la planète et ES-Mode a été la première école de mode à avoir vu le jour. Et elle a été créée est fondé par Alexis Lavigne. Alexis Lavigne était le maître tailleur de l'impératrice Eugénie. L'impératrice Eugénie étant la femme de l'empereur Napoléon III, donc l'empereur de France. Donc c'est lui qui l'habillait. Mais au-delà d'être son maître tailleur à l'impératrice, Alexis Lavigne, c'était vraiment un visionnaire pour plusieurs raisons. C'était l'inventeur, et il a breveté d'ailleurs le centimètre souple, le mètre ruban, que tout le monde a soit dans sa boîte à couture ou pour les hommes dans leur boîte à outils. C'est celui aussi qui a inventé le buste mannequin sur lequel toute la planète travaille encore aujourd'hui, les bustes en dur. Voilà. Et pourquoi il a inventé cela? L'impératrice était toujours par mons et par maux et il devait à chaque fois l'attendre pour retoucher ses vêtements sur elle, etc. Et il a eu la géniale idée de mouler son corps et d'en faire une structure rigide. Et comme ça, l'impératrice pouvait partir et lui pouvait continuer tranquillement à travailler sur les vêtements de l'impératrice. Mais sa plus grande vision a été de trouver le procédé pour démultiplier un même vêtement dans différentes tailles. En fait, depuis la nuit des temps, depuis que l'humain était sur Terre, une femme, un homme ou un enfant avait une tenue, mais complètement faite à ses mesures, et qui ne pouvait aller à personne d'autre. Et lui, ça le dérangeait. Et il disait, je suis garanti que le vêtement doit se démocratiser, et une robe dans tel style, je voudrais arriver à ce qu'une autre femme puisse la porter, une autre femme puisse la porter dans des tailles différentes. Il a trouvé le procédé. Mais comme il se faisait un peu vieux, il était garanti que ça allait être l'avenir, il pouvait être sûr que ce soit l'avenir, de la mode et du prêt-à-porter, on va dire. Il s'est dit, il faut transmettre. Et c'est comme ça qu'il a créé l'école ES-Mode. Aujourd'hui, ES-Mode, 185 ans plus tard, c'est la première école de mode au monde, avec 18 campus dans le monde. Voilà, on est aussi bien implanté, bien sûr, à Paris, Lyon, Rennes, Bordeaux, Roubaix, mais aussi Tokyo, Séoul, Kuala Lumpur, Oslo, etc., etc. En fait, ES-Mode est implanté là où il y a une réelle industrie aussi textile. À ES-Mode, on accueille des jeunes passionnés, celles et ceux qui veulent vraiment travailler plus tard dans ces métiers. Ils ont la possibilité, après le baccalauréat, donc ils vont avoir le bac, de soit poursuivre la filière fashion design. Alors ça, c'est plus la partie créative pour être styliste, modéliste, aussi bien en haute couture, qu'en homme, qu'en femme, en enfant, en prêt-à-porter, etc., etc. En fait, la partie créative. Mais il ne faut pas oublier que, comme tout métier, c'est du business aussi. Donc là aussi, ES-Mode a été précurseur il y a plus de 40 ans en arrière, en créant la première école de commerce, marketing et communication internationale, totalement liée à nos métiers dits de la mode. Voilà, c'est pour celles et ceux qui veulent être soit dans la communication, autour d'une marque, soit chef de produit, soit acheteur, soit directeur ou directrice artistique, soit dans le journalisme, pour travailler dans des magazines de mode, etc., etc. En fait, on pense toujours que la mode, il n'y a pas de métier derrière. Il y a plein de métiers. En fait, c'est une réelle industrie. Je donne toujours comme exemple. On pense que Monsieur Saint Laurent, et à son femme d'ailleurs, c'est lui qui dessinait, qui coupait le tissu, qui allait acheter le tissu, qui cousait toutes les robes, les manteaux, les vestes, etc. Non. Lui, c'était le DA, il impulsait ses envies, et après, toute une équipe qui sont des centaines et des centaines et des centaines de salariés, travaillait à ses côtés. Voilà, et ça, c'est vraiment l'industrie de la mode. Et si vous me permettez, je vais vous donner un autre exemple. J'aime toujours à le dire, et c'est la même question que je vais te poser, Ilyes. Depuis quand l'humain est habillé sur Terre?
Bah
Bonne question.
depuis la
Ah,
préhistoire.
et ben bravo, depuis la préhistoire. En fait, c'est l'homme de Cro-Magnon, en fait, qui a mis sur lui des peaux de bête. Alors, ce n'était pas une question d'esthétisme. Intuitivement, il s'est dit, pour la survie de notre espèce, il faut se vêtir pour le froid, le chaud, les rayonnements solaires, etc., etc. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui encore, sur toute la planète, c'est dans nos gènes, on doit être habillé. Autrement, on ne serait pas là en train de discuter ensemble aujourd'hui. Vous voyez?
Quelles sont les qualités requises pour rentrer dans l'école?
Il faut être curieuse et curieux. Il faut être amoureuse et amoureux de l'humain. Se dire, voilà, l'être humain, j'ai envie de l'habiller. L'être humain, j'ai envie qu'il se sente beau, bien dans sa peau. Voilà. Être curieux de tout. Curieux aussi bien de l'architecture, curieux de la musique, curieux de l'histoire du vêtement, même si on enseigne l'histoire du vêtement ici. Voilà, avoir cette curiosité. Et, je suis tenté de dire, ce petit truc qu'on a dans le ventre, qui nous titille en disant, voilà. Mais ça, c'est, voilà, parce que savoir dessiner, savoir coudre, tout ça, on va vous l'apprendre. On apprend cela à l'ensemble de nos étudiantes et étudiants. C'est vraiment cette curiosité, cette passion, cette envie de travailler dans nos métiers, qui sont magnifiques d'ailleurs, hein, parce qu'ils évoluent avec la société. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de Alexis Laville, Second Empire. Ben, les vêtements à l'époque, Second Empire, 1841, sont pas du tout les mêmes vêtements d'aujourd'hui. Voilà, parce que ça a suivi les modes, ça a suivi les changements industriels, technologiques, etc. Eh bien, dans nos métiers, on doit être nous aussi en amont de la société, ressentir les choses, des libertés, des restrictions. Donc ça permet aussi de s'exprimer, etc. Le vêtement, c'est un moyen d'expression aussi, avant toute chose.
Pourquoi avoir choisi Roubaix pour s'installer?
Eh bien, pourquoi Roubaix? Donc l'école, le campus roubaixien a ouvert il y a plus de 31 ans maintenant. Voilà. Pourquoi on s'est installé là? À la demande des institutions, à la demande des marques anciennes, des professionnels ici régionaux, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de marques anciennes ici dans le Nord. Et pourquoi Roubaix et pourquoi pas Lille, c'est vrai. Bah, Roubaix, on a trouvé que c'était beaucoup plus légitime, parce que Roubaix, historiquement, c'était le textile. Ça a toujours été le textile, la laine. Voilà. Et depuis le 15e siècle d'ailleurs, voilà, où le roi de France, au 15e siècle, avait fait un édit donnant le droit à la ville de Roubaix de faire commerce de toute laine. Aucune autre ville n'aurait eu le droit de faire commerce de la laine. Et bien voilà, le roi de l'époque avait donné à la ville de Roubaix, voilà, ce privilège de faire commerce de la laine. Et ça a été pendant plusieurs siècles. Roubaix était la ville la plus riche de France pendant très longtemps. Et puis après, ben voilà, comme tout changement, l'industrie de la laine, en fait, le tissage, bien s'est cassé la figure, on peut dire un autre mot. Toute cette technique de tissage, etc., etc., même des broderies, hein, au-delà de Roubaix, hein, eh bien, il y a une partie d'un certain pays dans le monde, la Chine, pour ne pas la nommer, eh bien, appliquer tout ce savoir-faire. Voilà, appliquer tout ce savoir-faire, cette industrie. Et Roubaix, et Esmode, pardon, eh bien là, ce sont les institutionnels et Jean Dufauret qui est toujours d'ailleurs à la tête de Heidi Group, donc le grand groupe pour enfants au Caïdi, etc., etc., qui a été le fondateur à l'époque aussi de Camaïeu, s'est dit, et ça, je m'en souviens toujours, cette phrase, et il avait bien raison, ok, les Chinois ont piqué la technique pour tisser du tissu, voilà. En tout cas, ils ne nous piqueront pas notre cerveau, donc notre créativité. Et pour être garanti que ça puisse aller encore plus loin dans la créativité, il nous faut une école de mode. Et la seule à pouvoir venir à Roubaix, ça peut être qu'Esmode. Voilà. Et c'est comme cela qu'on est venu ici s'implanter à Roubaix. Et ça marche très bien, et on en est ravis.
Est-ce que dans le parcours des étudiants et des étudiantes, les questions éthiques sont abordées?
Obligatoirement, mon colonel. C'est indispensable. Indispensable. Tout à l'heure, je vous ai dit que la mode suit la société, suit des changements, les évolutions industrielles et autres. L'éthique est plus qu'indispensable. Je dirais jusqu'à l'inclusivité. Voilà. Nous, ça fait très longtemps qu'on parle d'éthique, de RSE, avant même qu'on en parle beaucoup dans les médias et autres, l'industrie textile pollue, etc., etc. Elle pollue beaucoup moins maintenant, tant mieux. Mais nous, on a été précurseurs, voilà, d'obliger nos étudiantes et étudiants à ne pas faire de gaspillage, à ne pas acheter pour acheter, etc., etc., de créer des collections partant de vêtements déjà utilisés, donc de démonter des vieux vêtements, de retisser des tissus, etc., etc., etc. C'est une bonne question, mais tout c'est dans nos gènes, c'est intégré vraiment dans nos programmes de la tout au long de leur cursus étudiante et étudiant. Voilà, et jusqu'à l'inclusivité, bien évidemment. Quand on parlait tout à l'heure homme-femme, les collections homme-femme, enfants, ben aujourd'hui, voilà, il y a les non-genrés, etc., etc. Là aussi, bien la société évolue, la population évolue. Voilà, donc. Voilà. Donc c'est aussi leur faire appréhender, leur faire comprendre que le vêtement bien, peut être aussi porté par d'autres personnes sans être caricaturé. Enfin, ce sont pas des collections, ce sont des vrais vêtements. Ok. Voilà. Et ça, on se fait fort aussi de faire de l'inclusivité dans nos jeunes que nous accueillons ici. Voilà. Inclusivité d'ailleurs morphologique, bien évidemment. Mais aussi, et Roubaix d'ailleurs s'y prête bien, pouvoir accueillir des jeunes qui souhaitent depuis très longtemps faire S-mode, voilà, mais qui n'osent pas, qui n'ont pas osé franchir le pas de l'école, peur de quoi, je ne sais pas, voilà, mais nous on va privilégier ces jeunes-là. Parce que je ne vais pas dire les quartiers défavorisés, parce que je déteste ce mot-là. Ça m'exaspère quand j'entends des fois des personnes dire, ah oui, alors, les jeunes, les quartiers défavorisés, ou en insertion, en réinsertion. Mais alors ça aussi, ça me met en colère. Non, des jeunes tout court. Point barre. Voilà, les jeunes tout court, ils ont le droit eux aussi de s'exprimer, de venir travailler dans la mode plus tard. Et ça, en tout cas, moi, j'adore ça et j'adore les accueillir aussi ici.
Dans notre entourage, beaucoup de jeunes sont attirés par les produits de contrefaçon. Qu'en pensez-vous?
Alors, en êtes-vous sûr? Voilà, en êtes-vous sûr? Fut une époque où, d'ailleurs, il y a un musée de la contrefaçon à Paris, rue de la Faisanderie. Voilà, mais ça a toujours existé. Et je pense que la contrefaçon, elle était beaucoup plus visible, je serais tenté de dire, avec des moyens de distribution différents, bien sûr qu'aujourd'hui, il n'y avait pas le web, mais ça a toujours existé. Nos jeunes aujourd'hui, ben je vois à l'école, sont pas du tout friands de cela, mais vraiment pas. Ok. Après, si vous parlez voilà, de plateformes internet chinoises, etc., etc., ben même eux, les Chinois qui étaient les leaders dans la contrefaçon, ben en sont revenus. Voilà, on appelle ça maintenant le pinti. Voilà, parce que la population chinoise, elle aussi, ne voulait plus de contrefaçon. Donc, préférer avoir le même sac qu'une marque, mais sans le logo, sans le nom de la marque, avec quelques petites nuances et différences, etc. Ça aussi, c'est en train de s'effondrer, et ça tombe mieux. Et les jeunes, je le répète, aujourd'hui, en tout cas, de ce que je vois ici, ou de ce que je vois à l'extérieur aussi d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas confondre, parce que pas tout le monde peut s'acheter des fois un sweatshirt, une veste à X centaines d'euros. Voilà. Et l'offre, c'était l'Internet, la Chine, ben ils en reviennent. Ils en ont pas envie. Ils en ont pas envie. Ils préfèrent aller chez Zara, chez H&M, etc., etc., trouver leurs produits. Et surtout, et on le voit de plus en plus, et c'est une déferlante, toute la partie vintage. Ça, oui, les jeunes, c'est eux d'ailleurs qui ont introduit la partie vintage, la seconde main, l'achat de seconde main, redonner vie à un produit pour justement réguler l'empreinte carbone, pas acheter pour acheter. Non, non, mais ça, vraiment, les jeunes sont précurseurs. Vraiment, moi, c'est ça que j'admire hein, chez eux, et on ne peut que les encourager là-dedans. Alors après, les Temu, les Voguelon, etc., donc chinois, Chine, ils vont se faire épingler un de ces quatre. Ils commencent déjà à se faire épingler. Déjà, ils commencent à se faire épingler. Et ça ne pourra que disparaître, ça aussi. Quand je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est l'évolution des sociétés. Alors, bien sûr, on peut critiquer mal ou bien. Voilà. Voilà. Mais ça ne pourrait que s'effondrer pour apparaître de façon différente et surtout faire confiance, si on reste sur le cadre français ou européen, faire confiance à cette jeunesse. Parce que c'est eux qui font le monde d'aujourd'hui, c'est eux et elles qui vont faire le monde de demain. Vraiment. Et ils sont loin d'être idiots et idiotes. Vraiment. Et moi, je suis admiratif de cette jeunesse.
C'était Philippe Smirou, directeur d'Esmode Roubaix, l'école de mode.
La deuxième partie de notre émission est terminée. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine!